Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
La diaspora oubliée, les communautés juives en Afrique de l'Est. Quand on parle de diaspora dans le contexte de l'Afrique, on a tout de suite en idée cette grande diaspora issue des traites esclavagistes et qu'on retrouve un peu partout dans le monde, bien sûr aux Amériques, mais ça a été relativement tardif, mais aussi dans une partie de l'Europe, mais encore au Proche-Orient, mais aussi en Inde. Donc ces phénomènes de diaspora venus d'Afrique vers le monde est relativement connu, même si ça provoque encore beaucoup de débats. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est les diasporas qui, venant de l'extérieur, arrivent sur le continent africain. Aujourd'hui, on connaît les Indiens, il y a eu les Arabes, il y a eu les Européens, mais on ne pense pas à ces petites diasporas, petites peut-être dans le nombre, mais très importantes dans les mécanismes sociaux. C'est le cas en particulier de la diaspora juive. Un livre vient de sortir justement sur cette grande question et difficile question, livre en anglais dont nous recevons l'un des directeurs, José da Silva Horta, professeur à l'université de Lisbonne, qui a organisé ce livre avec Peter Mark. Le livre est en anglais, The Forgotten Diaspora, la diaspora oubliée.
Ce que je parle, ce que moi et Peter Mark ont travaillé, c'est une deuxième vague, disons, de gens d'origine juive qui est entrée, qui est pénétrée en Afrique, au moins à l'Afrique atlantique, et qui a trouvé des solutions pour pouvoir continuer juive. Et ici, il faut faire une distinction. On a, alors, c'est très important de penser que, on a parlé, je crois, dans notre programme, à un moment où les Africains vont constituer ces communautés en Afrique de l'Ouest, un bon numéro, nous ne savons pas exactement combien, mais une belle partie de ces les Africains étaient d'origine séfarade. Ça, c'est une chose vraiment importante.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer séfarade, ashkénaze pour nos auditeurs?
Tout simplement, quand on parle des séfarades, on parle des juifs de la péninsule ibérique, notamment portugais et castillans, etc. Et quand on parle d'Askenazi, on parle évidemment de l'Europe centrale. Cette diaspora qu'on a étudiée, elle est connectée avec ces séfarades, qui vraiment ont parti de Lisbonne, mais à un moment donné, déjà, en une petite diaspora européenne, ont parti aussi de ce que c'était à l'époque, à la fin du XVIe siècle, les provinces unies.
Où se trouvent-ils quand ils arrivent essentiellement sur cette côte de la Sénégambie? Ils créent un certain nombre d'établissements. Vous avez des situations précises pour les localiser, peut-être avoir une idée de combien sont-ils à peu près?
Oui. Du point de vue d'identité de ces séfarades, il faut faire de nouveau une différence. Il y a, comme j'ai dit, des Portugais, surtout Portugais, d'origine séfarade en Afrique, dès le commencement de la moitié du 15e, la fin du 15e. Mais ce qui est nouveau est la constitution de ces communautés de juifs qui s'identifiaient publiquement comme juifs. Alors, entre les nouveaux chrétiens, c'est le nom qui a été donné aux juifs qui sont convertis au christianisme, parce qu'il y a eu ces juifs qui ne sont pas convertis, mais il y a eu ces diasporas, ça continue, il continue à avoir des séfarades qui vont persister à s'enfuir du Portugal. Et alors, entre ces juifs, ces séfarades, il y a ceux qui, en secret, maintiennent une foi juive, même qui étant en même temps, être en même temps juif et chrétien, ce que c'était possible. Et puis, ce nouveau phénomène qui est le phénomène des juifs qui, à cette époque, s'étaient appelés les juifs publics. Ils affichaient publiquement son identité juive, prenaient des noms hébraïques, etc. Et qu'est-ce qu'on a, vu par hasard, dans les documentations de l'Inquisition, pour une autre recherche, on est en face toute une documentation sur ces communautés qui était situé à ce que les Français ont appelé, et puis a été une catégorie appropriée localement, la petite côte sénégalaise, et surtout à Rufisque, à Porto Dali, ça les Portugal en disant, et à Joal. Et ils ont constitué des petites communautés, petites même, quelquefois, et c'était des gens qui circulaient tout le temps, des commerçants qui circulaient entre le Portugal, l'Hollande, autres points de la côte de la Guinée. Et parfois, il n'y avait pas 10 personnes pour prier, faire la prière, le minyan, pouvaient faire la cérémonie juive, faire la synagogue, comme on disait à cette époque-là. Et alors, au maximum, serait peut-être 30, 40, ça dépend, oui.
Et alors, comment ça se passe localement? Donc, dans la région que vous étudiez, l'islam est déjà présente, disons, les cultes pré-islamiques sont également présents, les Portugais sont également là, catholiques. Comment ça se passe la coexistence de ces différentes pratiques religieuses, et surtout dans votre point de vue que je partage, qui est d'insister sur l'initiative africaine? Comment les chefs politiques ou religieux africains traitent-ils ces Européens dont ils se rendent compte qu'ils ne sont pas des chrétiens?
Eh bien, ça c'est une chose intéressante parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une réaction africaine. Ici, il faut aussi, si parler en Européen, c'est généralisé, et aussi parler en Africain, c'est aussi généralisé. Alors, en bref, je dirais, puis je peux entrer en détail, parce que c'est intéressant, et même raconter une petite situation qui est bien un bon exemple de ce que je veux dire. En bref, les souverains africains et les élites africaines, inclusives musulmanes, de la petite côte, ont décidé de protéger ces marchands juifs. Protéger pourquoi? Parce que les catholiques, s'ils auraient la possibilité, ils voulaient les expulser. Parce que ce n'était pas seulement une question de guerre de religion, c'était une question de marché, de rivalité. Parce que ces marchands venaient de notre réseau. Ces marchands séfarades, ils venaient, ces marchands juifs publics, venaient d'un autre réseau qui ne passait pas nécessairement par les réseaux des autres nouveaux chrétiens et des vieux chrétiens, pour dire le nom des vieux catholiques, de souche catholique, disons. Et les catholiques ont, à un moment donné, à partir de Cacheu, qui est à l'actuel nord de la Guinée-Bissau, où les Portugais ont créé un établissement plus ou moins officiel, c'est une bonne discussion, au commencement du XVIIe siècle. Ça a été créé déjà au fin de les années 80 du XVIe, mais en fait, comme établissement officiel, peut-être c'est difficile de dire qu'il y a un établissement, une faiturie, comme on disait, un entrepôt, vraiment comme établissement officiel, formel, avant le commencement du XVIIe. Alors, le vicaire qui était là, représentant de l'évêque de Cap-Vert, qui avait comme aire d'influence cette région, très théorique évidemment, il a écouté des dénonciations et on a voulu capturer ces juifs qui étaient au nord de la Sénégambie. Et les rois, les souverains locaux ont dit non, mais pas du tout, mais c'est impossible. Mais non, ce sont mes juifs. Ce sont mes juifs, ils sont mes blancs, mais ils sont aussi mes juifs. Alors, non. Et la question, je crois, la part africaine de cette question-là. Pour les souverains, je crois que le plus important était ne pas perdre le marché. Et ces juifs, ils représentaient les liaisons avec l'Hollande, par exemple, très importantes. Ils étaient importants pour une nouvelle vague de commerce et de gens avec intérêt à faire le commerce qui venaient des Pays-Bas. Alors, la décision, c'est protéger. Mais il y a une autre partie de l'histoire qui est intéressante. Les Juifs, évidemment, ça a été discuté. Et les Juifs ont fait une ambassade au Teigne de Bawol, de Portugal, le souverain qui contrôlait le port d'Ali, comme on dit, on dirait à l'époque. Ils ont fait une petite ambassade au souverain et l'ont s'identifié eux-mêmes comme plus proche des musulmans En tant que religion. Ils ont dit, non, les catholiques, ils veulent, ils font notre persécution parce que nous suivons Moussa. Et alors, évidemment, qu'ils vont appeler aux caractéristiques communes, aux souches communes entre du livre de l'Ancien Testament, entre les musulmans et les juifs, pour se présenter comme suivant Moussa et en plus comme circoncis. Alors ils vont dire, nous sommes circoncis comme vous. Alors, et ça, on peut interpréter d'une façon double, envers un public musulman et un public des religions africaines, bien sûr. Mais à la fin, évidemment, ça a bien marché pour les juifs, continue à croire que la question essentielle pour les souverains locaux était bien s'assurer que les négoces auraient marché, il n'y a pas une interférence, ces guerres entre Européens dans ces ports.
Il y a des problèmes d'identité sur lesquels votre livre insiste. Ce livre, c'est donc La diaspora oubliée, les communautés juives en Afrique de l'Ouest et la mise en place du monde atlantique. Alors, la question de la religion, venez d'en parler, la question de la couleur, blanc, noir, métis, parce que évidemment les gens se marient ou vivent ensemble. Est-ce que ça joue un rôle, cette question identitaire, ou est-ce que c'est l'intérêt commercial et les réseaux commerciaux? Parce qu'on est quand même dans une société d'une complexité très 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 grande, déjà à cette époque.
Mais oui, mais on ne doit pas séparer les deux questions. En fait, on ne peut pas séparer le modèle identitaire, les critères d'affichement d'identité qui étaient les critères des sociétés africaines, de cette partie de l'Afrique atlantique, et la question des négoces, la question du commerce. Les choses sont complètement liées. Et ici, la question de couleur blanche, la question des liaisons de ces communautés sociales locales est vraiment importante. Parce qu'en fait, ces juifs, ils ont fait comme les autres, les Africains. Ils étaient les Africains comme les autres. Seulement, la religion était différente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi les mêmes, c'est ici une continuité, parce que ils ont, comme les autres, les Africains, ont pris, ont fait des mariages avec des femmes africaines, ont eu des enfants. Ici, les Africains chrétiens, qui étaient la majorité, bien sûr, a décidé d'éduquer ses enfants dans le christianisme. Eh bien, ces marchands juifs vont éduquer ses enfants métis, évidemment, dans la religion juive. Et ça est très important, parce que ils vont le faire, l'identité juive va passer de façon hétérodoxe, non par la mère, comme il était habituel au monde juif, mais par le père. Même quand il fallait définir qui est juif ou qui n'est pas juif, la couleur de la peau va être pas importante du tout, parce que la couleur de la peau n'était pas, dans les sociétés africaines de cette région, elle n'était pas une chose importante du point de vue de l'identité sociale. Et ça, on oublie beaucoup de fois. Et ce modèle flexible, où vraiment on peut identifier, les gens peuvent changer d'identité, peuvent être reconnus d'une certaine façon et être reconnus à une région, à une autre place d'une autre façon, ça a vraiment pris un rôle. Par exemple, je disais que je vais raconter une petite situation. Et disons que les Africains n'ont pas tout réagi de la même façon à ces Juifs. On voit le cas des ports où étaient ces communautés au nord de la Sénégambie. Mais ils circulaient pour toute la région. Ils faisaient le commerce jusqu'en Sierra Leone. Alors, ils vont un souverain qui était un souverain très important du point de vue de la traite de l'esclavage un peu au sud de Cacher, au près de Bissau, à Anfray, et ils vont faire vont essayer d'établir des négoces avec ce souverain africain qui avait un nom portugais de baptême, on ne sait pas, Sébastien, on ne sait pas. Le royaume cet espace politique de Boussis, qui était vraiment très important dans la traite. Et alors, un de ces juifs, qui son nom portugais était Luís Fernandes Duarte, il va se présenter comme chrétien, avec son nom chrétien, dans la lettre qu'il écrit au souverain africain. Et complètement, il ne va pas, évidemment pas dire qu'il était Joshua Israël. Non, il se présente comme chrétien. Et ça marche comme ça, avec cette flexibilité. Mais pour reprendre la question des familles métisses, etc., ça est très intéressant. Parce qu'en vrai, ces communautés vont reconnaître les Africains qui se convertissaient au judaïsme comme juifs égaux à les autres. C'est très important ça. Et même, il y a eu des prosélytismes, pas seulement la question des familles métisses, mais aussi il y a eu des prosélytismes avec ces Africains qui faisaient partie du groupe qui faisait le commerce. Il y a, on connaît peu de cas, mais on a l'évidence de documents qui prouvent qu'il y a eu ces conversions d'Africains au judaïsme. Et l'histoire ne termine pas ici, parce que la question est, qu'est-ce qu'il est fait de ces communautés? Quel est le destin de ces communautés? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Quand ils commencent à retourner en Europe, il y a un retour, ça commence 1607, 1608, et c'est va.
Ils vont où en Europe? Au Portugal ou à Amsterdam?
Surtout aux Pays-Bas. Surtout Amsterdam, Rotterdam, quelques aussi peut-être aussi en Allemagne, Hambourg, on ne sait pas beaucoup ces détails-là, mais c'était la base commerciale dont ils étaient partis. Quand même, ils appartenaient la plupart de ces familles aux élites de la communauté dite portugaise, par exemple en Amsterdam. Et qui était en fait composé par des séfarades, pas seulement portugais, aussi de Castille, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il y a, est passé? Ils ont commencé à revenir, peut-être années 30, la fin de les 20-30, et puis ça, ce phénomène termine comme consistance, ça termine aux années 40 du 18e siècle. Et qu'est-ce qu'il se passe avec leur retour? Il retourne pas mal avec ses femmes et ses enfants métis. Et en Amsterdam, au moins à la première partie, moitié du XVIIe siècle, ils vont, au contexte de la société d'Amsterdam, ils vont les reconnaître comme juifs. Même les juifs qui étaient vraiment africains ou d'origine africaine. Et ça, c'est un point important parce que ça, après, a changé. Et même de sa propre part, ça a changé. Il y a d'autres questions qui vont vraiment être plus importantes, comme le nettoyage de sang, des choses qui sont... Mettre en valeur une origine vraiment juive ou choses pareilles. Mais ça, c'est déjà un changement. Et qui accompagne le mouvement en Europe de ces questions de race, etc.
Finalement, dans cette histoire de la longue durée, il y a eu ces retours en Europe, et puis sur place, les traces du judaïsme ont disparu.
Alors, je crois que c'est une histoire à faire. Le problème, c'est les sources, sont les sources. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, il y a des petites annotations descriptives de mélange de religions. Même à la fin du 7e, on parle de religions mélangées, et même en 18e, il y a encore des informations sur ça. Ce que montre que même considérant que ces communautés n'étaient pas nombreuses, ça a laissé une marque, a laissé vraiment une marque. Et encore, il y a des petites histoires du 19e qui ont des gens un peu étranges qu'on signale à Joal et à Portugal, qui avaient un comportement, des mœurs un peu étranges. Alors, mais ça, c'est déjà une autre recherche.
Ok, voilà, donc une recherche qui doit se prolonger sur les Juifs, cette diaspora oubliée sur le continent africain, avec là aussi, on voit un phénomène qui n'est pas localement africain, qui nous engage tout à fait dans une histoire globale. Merci à vous, José da Silva Horta, pour cet entretien qui se base sur un livre en portugais dont nous espérons vivement qu'il sera traduit en français. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.